s'est paru dans Télérama il y a quelques années. On parlait d'un curé en Normandie à Saint-Jacques de Dieppe qui a commencé son homélie de Pâques le dimanche matin en disant « Le Christ est ressuscité, peut-être ben que oui, peut-être ben que non ». Et toute l'assemblée était un peu étonnée qu'il commence son homélie comme ça. Et puis il a répondu « Vous êtes bien normands, les champions de l'incertitude. Chez vous, c'est connu, c'est tout est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ceux qui sont étrangers parmi nous ne le savent pas, mais la Normandie, là, c'est au nord-ouest de la France. Et on dit souvent « peut-être ben que oui, peut-être ben que non ». Alors, à la fin de son homélie, il a crié « Jésus est ressuscité, youpi !» Et donc, c'était un curé qui avait du répondant. Et on peut se demander si, en ce qui concerne la résurrection de Jésus, on peut développer une attitude de normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On ne sait pas trop, on verra bien quand on y sera. Et on pourrait se poser une autre question similaire. Est-ce que la résurrection est une question essentielle? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? Certains ont reproché aux évangélistes d'avoir ajouté la résurrection pour faire une bonne fin. Il n'y a pas de mort comme ça, une fin à la Hollywood, une bonne fin. Est-ce qu'on peut s'en passer? Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'on se pose la question. Quelques années après les événements de Jérusalem, certains déjà questionnent le sujet de la résurrection. Certains chrétiens de l'église de Corinthe, en Grèce, se demandaient si on ne pouvait pas s'en passer. Ils étaient sous l'influence de la philosophie grecque qui met l'esprit en avant. Et pour eux, une vie dirigée par l'esprit était suffisante. L'esprit était suffisant. Il n'y avait pas besoin de parler de résurrection des morts. Et effectivement, à l'époque comme aujourd'hui, tout le monde peut se faire son petit bricolage philosophico-religieux en prenant de ci, en prenant de là. Tout est possible pour les MacGyver de la religion, de prendre un petit peu de ci, un petit peu de là. Mais à la fin, il faut se demander si ça tient la route. Si la maison qu'on s'est construite tient la distance, est-ce que je vais pouvoir y vivre et y vivre longtemps? Et pour ses amis de Corinthe, Paul, l'apôtre Paul, va leur répondre comme il le fait d'habitude avec sa plume et son papyrus. Et il va écrire le chapitre 15 de sa lettre aux Corinthiens. On ne va pas le lire parce qu'il est trop long, mais c'est tout un chapitre qui est consacré à la résurrection. Et on pourrait mettre comme titre du passage « Si Jésus n'est pas ressuscité, qu'est-ce qui se passe ?» Et il va développer trois arguments que j'appellerais des arguments un petit peu par l'absurde ou à contrario, je ne trouve pas vraiment le mot, si quelqu'un a une idée, il pourra me le dire, mais qui commencent tous par ces trois arguments, si Jésus n'est pas ressuscité, que se passe-t-il? Et je reprends simplement les réponses de Paul et je les mets à ma sauce, à la sauce hollandaise, évidemment. Si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, on est mal avec notre mal. Et lui, Paul, il va le dire différemment, il va dire « Votre foi, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Et pour le mot « péché », j'aime utiliser, alors littéralement, en grec, ça veut dire « rater la cible ». Tous nos actes manqués, nos manquements, c'est un bon synonyme pour « péché », manquement. On a raté à tous nos actes manqués, à tous nos actes ratés. Mais on pourrait parler aussi du mal. Quand on parle du péché, du mal personnel, le mal qui nous colle à la peau, que nous commettons sans le vouloir, mais en le voulant parfois. Ce mal personnel que nous parvenons plus ou moins à camoufler, mais qui vient nous attrister au plus profond de nous. Ce mal que nous regrettons, mais que nous reproduisons et qui vient plomber notre vie et nos relations. Et ce mal personnel, c'est aussi le mal que nous subissons et qui nous est infligé dans la vie, par les autres ou par la vie, et ce mal nous fait souffrir et nous enferme dans la souffrance, et le poids du mal, c'est tout cela, ce mal qui nous fait mal. Et si Christ n'est pas ressuscité, le problème du mal n'est pas résolu. Et le mal, c'est le plus grand problème de l'humanité, pas seulement de ma vie, mais de l'humanité tout entière. Et on le voit bien aujourd'hui, le mal est partout. Et si je suis, et si Christ n'est pas ressuscité, je suis toujours avec mes fardeaux, je suis toujours sous le poids de ma culpabilité et qui m'écrase, et cette souffrance que je ne comprends pas. Si Christ n'est pas ressuscité, je suis mal dans ma peau. Et pourtant, quand Jésus porte sa croix, quand il est crucifié sur cette croix un vendredi soir, on pressent qu'il touche le problème du mal. Il semble que Jésus, cet homme de bien, est en train de payer de sa personne dans sa souffrance et qu'il est comme dans un combat contre le mal. On le pressent parce qu'il y a un détail qui n'échappe à personne, ou presque, c'est qu'il est innocent. Le centenier romain le voit bien et il le dit, cet homme était certainement le Fils de Dieu. Les brigands, un des deux brigands qui était là, le dit bien également. Nous méritons ce qui nous arrive, mais lui pas. Lui, il ne le mérite pas, il est innocent. Et donc, s'il meurt, c'est peut-être pour une autre raison. D'ailleurs, cet homme meurt comme personne d'autre ne meurt. Il dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle mort bizarre !» Et on pressent que sur cette croix, il serait possible qu'il meure non pas pour sa propre faute, mais pour la faute des autres, qu'il prenne sur lui le mal, qu'il prennent sur lui les manquements, le mal du monde. Oui, c'est tout à fait possible. Mais s'il reste sur la croix, ou plus tard, s'il reste dans le tombeau, qui me dit que ce n'est pas juste un homme qui meurt comme un autre homme, responsable pour ses propres fautes, ses fautes à lui, mais pas les miennes? Comment savoir? Certes, Jésus sur la croix accomplit quelque chose d'énorme, un acte d'amour, de courage, d'abnégation, mais il faut en quelque sorte la confirmation d'en haut, il faudrait le verdict de Dieu. Tant qu'il est dans le tombeau, ce sont ceux qui l'ont pris pour un illuminé, qui l'ont pris pour un rabbin en mal de publicité qui ont raison. Tous ces gens pour qui Jésus n'est qu'un homme un peu trop tourné vers la religion, un homme qui n'avait qu'à se tenir tranquille, qu'il a bien mérité ce qui lui est arrivé. Tous ces gens, tant qu'ils restent dans le tombeau, ils ont raison dans ce qu'ils pensent de lui. Le vendredi soir, alors qu'on perce les poignets de Jésus, ils ont raison. Le samedi matin, au petit déjeuner, ils ont raison. Pendant le repas du samedi midi, ils ont raison. Pendant la sieste, ils ont encore raison. Et le samedi soir, quand ils vont se coucher, la conscience tranquille, ils ont raison, tous ceux qui pensent que Jésus est un homme mort par sa propre faute. Mais le dimanche matin, ils ont tort. Jésus est ressuscité. Et la résurrection de Jésus vient comme un verdict. Il est vraiment le sauveur du monde. Il est vraiment la solution au problème du mal. Il a vraiment pris tout le mal de ce monde sur lui à la croix. Il a pris le mal du monde, il a pris mon mal et il a pris ton mal et ton mal-être par la même occasion. Le verdict de Dieu tombe le dimanche matin de la résurrection. Quand Christ ressuscite, la croix est confirmée. Paul dit dans Romains 8, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Ce n'est pas pour dire que la résurrection est plus importante que la mort sur la croix, mais c'est simplement pour dire que la résurrection confirme son œuvre à la croix. Christ n'est pas mort seulement, en plus, il est ressuscité et ça change tout. Mais si Christ n'est pas ressuscité, rien n'est confirmé et on est mal, et on est toujours avec notre mal. Il y a Charles Guillot, qui est bien connu dans la région, qui s'est occupé de Radio Évangile à Monte-Carlo pendant des années, qui le disait très bien, si Christ n'est pas ressuscité, s'il est seulement mort sur la croix, nous en serions à simplement louer son dévouement, à chanter son amour, à exalter sa générosité et à vanter son courage, mais nous resterions prisonniers de nos problèmes s'il était seulement mort sur la croix. Et il continue, et il faudrait abandonner à tout jamais l'espoir d'un quelconque changement dans notre vie, enfermé dans une impasse, coincé au bout de la route, s'il était seulement mort sur la croix. Si Christ n'est pas ressuscité, on est mal et on est coincé au bout de la route, à l'impasse du bout du monde. Premier argument. Deuxième argument, si Jésus n'est pas ressuscité, on est nulle part. On est nulle part. On est coincé au bout de la route. Il n'y a pas beaucoup de perspectives. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Sur la pierre tombale de Jésus, calfeutrée dans son linceul, on a marqué « Ici repose Jésus-Christ, priez pour lui ». C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Lui, en tout cas, il ne peut plus rien pour lui. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas d'ouverture. Alors, que faire quand il n'y a pas d'espoir, quand il n'y a pas d'issue? Eh bien, autant brûler la chandelle par les deux bouts. Et c'est ce que Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, au verset 33. Si Christ n'est pas ressuscité, nous ne le serons pas non plus, parce qu'il est le premier ressuscité, normalement, et qu'il va en entraîner d'autres. Mais si Christ n'est pas ressuscité, nous ne le serons pas non plus, et notre existence s'arrête à la mort, et donc allons-y gaiement, mangeons jusqu'à l'explosion, buvons jusqu'à la noyade. Alors quand je dis gaiement, c'est peut-être exagéré, parce que quand on y réfléchit bien, c'est pas si joyeux que cela. Il serait plus juste de dire allons-y tristement s'il n'y a que cela. C'est comme la nouvelle cuisine avec toutes les petites portions, là, toutes les portions rikiki qui arrivent. Alors c'est bien arrangé, il y a un petit filet. Là, et on dit, il n'y a que ça? Et on soulève l'assiette et on se dit, mais où sont les frites? Où est l'entrecôte? Où est la sauce béarnaise? Il n'y a que ça. Quel morne plat, quel manque de densité. Si c'est tout, pourquoi s'engager dans l'amour? Pourquoi s'engager dans des relations intéressantes, dans le service des autres, dans l'éducation de ses enfants, dans quelque chose qui dure et qui a du sens? Si Christ n'est pas ressuscité, tout m'est indifférent. Et je pousserai un petit peu loin le bouchon, mais... Si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection des morts, autant brûler la chandelle par les deux bouts et autant peut-être se brûler la cervelle tout de suite. Si Christ n'est pas ressuscité, je suis nulle part et je vais nulle part. Et je vous rappelle que nous développons un argument par l'absurde ou à contrario, ne partez pas maintenant. Si Jésus n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, troisième argument, on est nul. Verset 19 le dit, de 1 Corinthiens 15, « Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, les plus malheureux de tous les hommes. Notre religion, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, est nulle et non avenue. Elle est tout à fait inadéquate, hors propos, en dehors du sujet. Le christianisme serait juste une série de valeurs à suivre, un mode de vie altruiste qui respecte les droits de l'homme, un code de conduite à suivre pendant 70 ou 80 ans selon les plus ou pour les plus vigoureux. Et alors, comme on dit en anglais, and so what? Il y aurait dans notre foi, si Christ n'est pas ressuscité, comme un manque de puissance rédhibitoire. On pourrait prendre l'exemple d'une voiture suréquipée, surconnectée, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, mais qui a un défaut de puissance, pas assez de chevaux vapeur dans le moteur, qui passe même pas le col de la lombarde ou le col de la bonnette. Sur le plat, elle fait illusion, mais dès qu'il faut monter, il n'y a plus personne. Sans la résurrection, la religion chrétienne fait illusion. Elle en jette plein les yeux, peut-être au niveau de l'amour, par exemple, mais c'est de la fumée illusoire. Il y a Paul qui dit « Votre foi est sans objet, sans objectif, sans consistance, elle est nulle. Et ceux qui prêchent sont encore plus nuls. Et moi, le premier, parce qu'ils n'ont rien à dire. Et il n'y a rien à croire. Nous n'avons rien à annoncer et nous n'avons rien à croire si Christ n'est pas ressuscité. Alors je pourrais monter encore dans les aigus, si Christ n'est pas ressuscité, etc. dans les aigus. Mais au verset 20, il y a Paul qui va faire retomber la tension en disant... Mais en réalité, Christ est ressuscité. Mais en réalité, il s'est vraiment relevé d'entre les morts. Et Paul n'en a jamais douté. Dans les premières lignes du chapitre, il apporte des preuves de la résurrection de Christ. Il a été vu. Il s'est montré. Ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas une apparition, ce n'était pas une figure de style, ce n'était pas une projection du désir de le voir ressusciter, ce n'était pas une hallucination collective. Il a été vu et il donne des preuves. Et il donne des preuves suffisantes pour cela, comme Jésus donne des preuves à Thomas, le fameux Thomas qui émet un doute. Et Jésus ne fait pas de reproche à Thomas. Thomas a le droit d'être sûr, a le droit de savoir que Jésus est réellement, en réalité, ressuscité, que la résurrection n'est pas une idée vague ou une possibilité de résurrection, mais qu'elle repose sur des faits tangibles. Passe ta main sur ton côté, sur mon côté, lui dit Jésus. Touche-moi et tu verras que c'est bien moi. La réalité de la résurrection est de toute première importance. Comme le dit Paul au début du chapitre, je vous ai transmis un enseignement de première importance et suis la liste des témoins oculaires. Il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants aujourd'hui. Autrement dit, vous pouvez aller les interroger sur la résurrection, vous pouvez faire une investigation, ils sont connus. Et Paul range ces informations historiques dans la catégorie de l'enseignement de toute première importance, parce que ça l'est. L'enracinement historique de la foi chrétienne n'est pas secondaire. Les faits objectifs ne sont pas sans importance, ils sont de première importance. Il est vraiment ressuscité. C'est important parce que ça aura des répercussions dans notre vie. Et je termine par trois répercussions dans notre vie. Parce que Christ est vraiment ressuscité, je peux être sûr que la croix a fait son effet, que l'acte d'accusation qui me condamnait a vraiment été cloué sur la croix, que Dieu l'a effacé, que mes péchés, comme le dit la Bible, sont véritablement derrière le dos de Dieu, que je suis vraiment pardonné en Jésus-Christ, que j'ai déposé mon fardeau, qu'il me l'a enlevé, que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de moi mes transgressions. Dieu me pardonne en Jésus-Christ, confirmé par la résurrection. Et je peux être à l'aise. Il y a un psaume qui dit « Il m'a mis au large » ou « Il m'a mis à l'aise ». Je peux être bien maintenant dans le bien. Et si parfois le mal retrouve ses habitudes en moi, il me l'enlève à nouveau. Je suis bien, je suis à l'aise. Parce que Christ est ressuscité, je peux vivre le pardon de Dieu pleinement. Dieu me pardonne pleinement en Jésus-Christ. Il ne reste plus qu'à me pardonner. Et parfois, c'est le plus difficile, mais c'est possible. Parce que Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Parce que Christ est ressuscité, ma vie peut prendre une nouvelle dimension. Elle gagne en profondeur et en largeur. Si Christ est ressuscité, il y a une résurrection pour moi aussi. Et cela change tout. Ma façon de voir la vie, d'entrer en relation avec les autres, de m'investir dans cette vie, parce que Christ est ressuscité et que je ressusciterai après lui, je me prépare pour l'éternité, je travaille pour l'éternité, et dans ce genre d'entreprise, le chômage n'existe pas, je ne suis plus nulle part, je ne suis pas dans le pays de jamais, jamais à la Peter Pan, mais je suis pour toujours dans le monde, dans le royaume de celui qui donne la vie, le mouvement et l'être pour l'éternité. Ma vie prend en densité. Et peut-être, et je me disais aussi, parce que je sais que je vais ressusciter, que je vais vivre éternellement avec Dieu en Jésus-Christ, corporellement, je vivrai une paix tellement différente dans cette vie. Je ne voudrais pas tout gagner, tout faire. Je pourrais attendre, je pourrais vivre pleinement chaque minute que Dieu me donne à vivre. Ma vie prendrait en densité parce que Christ est ressuscité. Troisièmement, ma foi peut être dynamique. J'avais marqué puissante, mais c'est un peu présomptueux la puissance, bien qu'on parle dans la Bible de la puissance de la résurrection, la puissance de transformation de la résurrection. Comme la résurrection de Jésus a transformé cette bande de disciples apeurés, découragés, en des témoins dynamiques de la bonne nouvelle de Jésus, il peut faire pareil en nous. Nous transformer en des porte-paroles de l'évangile ou de la résurrection, d'un message qui vaut le coup, un message qui vaut la peine d'être entendu et qui peut faire la différence dans le monde. Et ça, ça change la vie. Notre monde a besoin d'entendre un message d'espérance. Et cette espérance est fantastique en Jésus-Christ. Il a bien besoin de l'entendre, d'entendre que notre Dieu est un Dieu qui a le pouvoir de la résurrection, de la planète aussi, mais des gens, du monde, le pouvoir de la résurrection. Non, vraiment, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de la résurrection. On aurait plutôt l'occasion de dire, d'ouvrir nos mains et d'accueillir de nouveau ce ressuscité dans notre vie. Viens, Seigneur Jésus, toi le ressuscité, et change-nous, transforme-nous. On a besoin de toi, et merci pour ta résurrection. Et on termine par cette tradition orthodoxe hein, qui dit, l'officiant dit, Jésus-Christ est ressuscité, et l'assemblée répète, il est vraiment ressuscité. Ok ? Jésus-Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Amen.